Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait tout à l'heure, après le flash de 17h, je vous emmènerai au Japon, à l'époque des cerisiers en fleurs, quand les arbres dans les villes se couvrent de milliers de fleurs d'un rose délicat, subtil, très fin. Il n'y a qu'au Japon qu'on peut voir ça, c'est merveilleux. Pour l'instant, nous sommes dans les Ardennes, une région que l'on découvre depuis 16 heures et qui est vraiment sous-estimée. Elle est pleine de trésors. Par exemple, à Sedan, vous avez le plus grand château fort d'Europe. On ne le sait pas, ça. Le plus grand château fort d'Europe, le plus puissant château fort médiéval qui pouvait accueillir jusqu'à 4000 hommes. On en reparlera tout à l'heure avec Jean-Bernard Carrier. Nathalie.
Oui, c'est moi.
Je le refais.
Oui.
Nathalie, vous adorez les légendes.
Oui.
Et les plus croustillantes.
Oui. Alors là, j'en ai une histoire un petit peu en mode qui va à la chasse, perd sa place, mais avec une morale pas très gentille pour les femmes. C'est celle des trois dames de Meuse, changées en pierre pour cause d'adultère.
Aïe.
Alors je vous pose le décor, nous sommes dans la commune de Lefort, qui est située dans une boucle de la rivière de la Meuse, sur la rive gauche. C'est un des plus impressionnants paysages de la région, il faut bien le dire. Et nous sommes au XIe siècle, avec le seigneur de Hierges, qui a trois fils, qui épouse les filles du seigneur de Rethel, s'appellent Audierne, Berthe et Ige. Et peu de temps après leur union, eh bien, les trois jeunes hommes partent en croisade aux côtés de Godefroy de Bouillon, et alors qu'ils combattent en Terre Sainte, ce qui n'est pas franchement une partie de plaisir. Hein.
Ouais.
Leurs femmes pleurent un peu, mais comme elles ne se prennent pas non plus pour Pénélope, vous savez, qui attendait gentiment Ulysse en tricotant. Alors elles vont s'éclater avec trois chevaliers. Alors s'éclater, vous avez compris. Hein,
oui, on a compris.
Joyeusement, on va dire bibliquement. Mais justement, Dieu les punit. Et lors de l'attaque de Jérusalem, où les maris sont particulièrement braves, et ben les vilaines sont changées en pierre, c'est-à-dire en trois gros rochers noirâtres qui surplombent la Meuse.
Elles sont directement
pétrifiées.
Punies avant même que les maris ne reviennent.
Exactement, pétrifiées, littéralement.
Et elles sont toujours là.
Non, ça rigole pas. Ben oui, c'est trois rochers qu'on peut toujours contempler. Alors, est-ce qu'il y a des dames derrière? Peut-être.
Bon. Eh bien, dis donc. Alors ça, c'était l'histoire rigolote.
C'était la légende sympathique de Nathalie.
Oui, parce que malheureusement, les Ardennes ont été le témoin de grandes batailles, de grandes guerres. Un peu à toutes les époques, hélas.
Oui. Alors là, je pense plutôt à l'une d'entre elles qui a changé le cours de l'histoire, parce qu'il s'agit de la chute du Second Empire et la fin de la dynastie des Bonaparte. C'est la défaite de Sedan le 2 septembre 1870 face à la Prusse. Six semaines plus tôt, Napoléon III a déclaré la guerre à la Confédération d'Allemagne du Nord, mais vraiment de façon maladroite et puis précipitée. Il n'a pas de soutien réel, il n'a pas non plus vérifié son armée qui va se retrouver littéralement enfermée à Sedan. Et il y a 83 000 prisonniers français, dont l'empereur. Ah. Alors, il faut dire, à sa décharge, pauvre Napoléon III, il va pas très bien. Il a un caillou dans la vessie qui est très douloureux. On appelle ça la maladie de la pierre. Il va en mourir. D'ailleurs, il souffre le martyr. Mais c'est énorme parce que c'est la quatrième fois dans l'histoire de la France qu'un souverain est capturé sur un champ de bataille. Donc on signe bien sûr la capitulation au château de Bellevue, sur une hauteur à quelques kilomètres de Sedan. Et puis évidemment les nouvelles se répandent très vite. À Lyon, à Marseille, à Paris, on apprend ce désastre. Donc l'empereur est déchu et la Troisième République est proclamée. Le gouvernement provisoire va tenter de poursuivre la guerre, mais les Prussiens, eux, se dirigent à marche forcée vers Paris. Et là, la capitale va subir un siège éprouvant jusqu'à l'armistice de janvier 1871. Les Parisiens vont bouffer les animaux du zoo et même des rats.
Ah bon ?
À la place de l'hôtel de ville, on vendait des rats, mais c'est une autre histoire.
Quelle histoire, dis donc.
Oui.
Et c'est vrai que les Ardennes n'ont pas été gâtées côté guerre.
Ah non.
Je veux dire que c'est le seul département à avoir été occupé durant toute la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, soit 52 mois passés sous le joug ennemi. Et ce n'est pas la seule fois où ils ont souffert. Pour parler encore des Ardennes, mais alors sous un autre aspect plus littéraire, on a évoqué tout à l'heure Arthur Rimbaud, bien sûr, mais vous avez dégoté un autre personnage.
Oui, il s'agit d'un homme au nom très connu qui a vraiment révolutionné le monde de l'édition et de la presse. Il l'a littéralement façonné sous sa forme actuelle, ou presque. Il s'agit de Louis Hachette.
Oui.
Alors, il est né à Rethel en 1800, dans les Ardennes, donc origine modeste, hein, paysanne. Puis sa mère devient lingère au lycée Louis-le-Grand à Paris, donc il la suit. Il est inscrit à ce lycée, c'est un bon élève. Il se dirige vers l'enseignement. Puis il change un peu, il entame des études de droit et s'achète un brevet de libraire-éditeur. Et grâce à ses contacts dans le milieu de l'enseignement, il va fonder la librairie classique Hachette. C'est une toute petite maison d'édition, mais tout de suite, il se spécialise dans les ouvrages d'instruction et sa maison est située dans le quartier des écoles à Paris.
Mais alors comment il passe d'une petite maison toute modeste à un empire ?
Mais parce que c'est un vénard, ce Louis Hachette ! Et puis c'est aussi un super alignement de planètes. Hein. C'est-à-dire qu'en 1833, il y a la loi Guizot qui va généraliser l'instruction publique primaire. Et donc, il va réussir à imprimer un maximum de manuels, de dictionnaires, de cahiers d'exercices, de corrigés, de guides du maître qui se vendent comme des petits pains. Le premier manuel scolaire, c'est lui qui va l'éditer. Et il est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Il développe un véritable monopole dans les commandes des communes et des administrations. Il lance des collections, par exemple la célèbre Bibliothèque Rose que beaucoup d'entre nous ont connue,
bien sûr. Donc ça devient un capitaine d'industrie.
Ah oui, et puis vous allez voir à quel point il est novateur. Par exemple, le kiosque de gare, c'est lui qui l'invente.
Il a inventé les kiosques de gare.
Absolument, c'est Hachette, Louis Hachette qui invente le kiosque de gare.
Il avait des idées.
Ah, il avait beaucoup d'idées. Il a même aussi inauguré la Compagnie des chemins de fer du Nord. Mais en fait, il a copié un petit peu l'idée là, chez les Britanniques. Et du coup, il va ajouter à son catalogue les premiers guides de voyage. Et puis surtout, les éditions à bon marché, c'est-à-dire les ancêtres du livre de poche. Le contrat d'auteur, la publicité, le service de presse, le livre illustré. Et même la standardisation du livre format papier, bah, c'est encore Louis Hachette. Alors, un petit bémol hein, quand même à tout cet enthousiasme débordant. Il est quand même moyennement passionné par les grands écrivains de son temps. Par exemple, il va rater la proposition de collection d'un certain Émile Zola, qui est son employé. Donc ça, c'est un peu dommage quand même. En tout cas, lorsque Louis Hachette meurt en 1864, son entreprise d'édition est devenue un empire florissant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, Hachette Livre fait partie du groupe Lagardère et c'est le premier groupe d'édition français et le premier distributeur.
Ah, donc, passionnant.
Gloire à Hachette.
Passionnant. Merci Nathalie Elal. À suivre sur Europe 1, les bons petits plats des Ardennes. Enfin, bon petit, vu que c'est une terre de bûcherons, ça doit être du solide quand même.
Oui, c'est solide, mais c'est bon.
Avec Emmanuel Jarry dans un instant sur Europe 1.